Alors, le référendum sur la souveraineté de 1995, on en parle beaucoup puisque c'est le 30e anniversaire cette année.
Mm-hmm. Exactement, 30 ans déjà, ça va vite, ça va vite, mais on s'en rappelle. Ça a été marquant avec le référendum de 1980. Mais tout de suite en commençant, je vais vous recommander un livre qu'une amie m'avait prêté en 2015 à peu près. Là. C'est un livre qui a été publié en 2014 par Chantal Hébert et Jean Lapierre.
Mm-hmm.
Jean Lapierre, malheureusement, qui est décédé aux îles de la Madeleine. Là, dans,
un accident d'avion, à l'âge de 59 ans, il allait aux funérailles de son père.
Ben oui, hélicoptère.
Tragédie. Un petit avion.
Un petit avion.
Ah, oui, c'est
un petit
vrai.
Avion, oui. Et le titre, c'est « Confessions post-référendaires ». Les acteurs politiques de 1995 et le scénario d'un oui. C'est un titre assez long, là. Mais,
comme la question référendaire de 1980.
Oui.
Un peu moins long.
Ce qui est intéressant dans ce document, dans ce livre-là de 288 pages, c'est qu'ils sont allés voir, Hébert et Lapierre, ils sont allés voir le camp du oui et le camp du non.
Ils ont fait une job de journaliste.
Oui. Et ils leur ont demandé le camp du oui. OK. Le oui, si le oui avait gagné, qu'est-ce que vous auriez fait? On est allé voir le camp du non. Si le non, si le oui avait gagné, qu'est-ce que vous auriez fait dans les deux? Et c'est vraiment...
Ah, c'est intéressant.
Oui. Si vous pouvez le mettre la main dessus, là, ça vaut la peine de le lire. Évidemment, c'est des suppositions parce que le non l'a emporté, par très peu, mais l'a emporté. Alors, c'est sûr, mais c'était très logique. Puis c'est, écoute, c'est deux quand même personnes très... Chantal Hébert et Jean Lapierre, là.
Crédible.
Oui.
Rappelez-nous le titre.
Confession post-référendaire.
Confession post... C'est toujours pertinent.
Oui. Et moi, évidemment, je me rappelle pas tout, mais c'est un livre qui m'avait vraiment appris, là, tu sais, m'avait vraiment passionné. Et entre autres, le moment où le... quelque chose qui aurait été très, très important. C'est sûr que le politique aurait joué les frustrations du Canada anglais, tout ça, mais un gros élément, comme toujours, je pense que c'est Robert Bourassa qui disait « Il n'y a rien de plus nerveux qu'un million de dollars ». Je pense que c'est Bourassa qui disait ça. Oui, je pense que Robert Bourassa qui disait ça, oui. Alors, le monde des affaires aurait fait des pressions énormes sur le gouvernement fédéral, le Canada anglais, pour des négociations avec le Québec. C'est sûr qu'il y aurait eu une période où il y aurait du flottement, tout ça, tu sais. Mais il y aurait quelque chose qui se serait passé normalement. Parce que tu n'as pas le choix de. Quand un vote est remporté, même si c'est pas très fort, on l'a vu en Angleterre avec le Brexit, il faut que tu aies des négociations. Faut que tu, alors, mm-hmm. c'est ça. Alors, si vous pouvez le lire, c'est vraiment. Mettre la main dessus, ça vaut la peine.
C'est non? publié aux Éditions de l'Homme.
Oui, exactement. Oui. Alors, donc, on va se replacer un peu dans l'époque. Là. Le référendum québécois de 95, tenu le 30 octobre 95, est le deuxième référendum portant sur le projet de la souveraineté du Québec. Il a été organisé par le gouvernement du Parti québécois de Jacques Parizeau, élu en 1994. Donc, un an après, lui, il fait le référendum. Il n'attend pas comme de 76 à 80, 4 ans avant de faire un référendum. Et en vertu de ce référendum, ben, le gouvernement du Québec propose de faire la souveraineté du Québec et d'offrir formellement un nouveau partenariat économique et politique au Canada. Avec 50,58% des votes en faveur du non, la proposition est finalement rejetée. Point culminant de plus de 15 ans de débats constitutionnels entre le Québec et le Canada, ce référendum constitue un événement majeur de l'histoire contemporaine du Québec. Le camp du oui a obtenu 49,42% des voix. C'est 50 000 voix à peu près.
Alors,
s'il y avait simplement 25 000 voix qui étaient allées de l'autre côté, mais là, écoute, ça aurait été gagnant à 50 points. Un quelque chose, même pas un quelque chose. Là,
chaud, point... chaud.
Ah oui, non, ça, c'est pas... Beaucoup de gens, d'ailleurs, disent, tant qu'à faire une souveraineté, il faut que ce soit peut-être chercher une certaine majorité. Le faire avec même pas 51% des voix, c'est un peu... En tout cas. Alors, si on se replace dans l'histoire, bien, en 80, le Parti québécois dirigé par René Lévesque tient un référendum sur l'avenir du Québec. Ça vise à obtenir un mandat de négocier l'indépendance politique du Québec accompagné d'un nouveau partenariat économique avec le Canada. Et bon, le non l'emporte à 59,6% des voix. À l'automne 80, le premier ministre Trudeau annonce son intention de rapatrier la Constitution. C'était son obsession, Pascal Trudeau, de rapatrier la Constitution. Alors, la Cour suprême du Canada refuse de laisser au gouvernement du Canada le pouvoir de rapatrier seule la Constitution. Alors, cependant, elle accepte que le rapatriement s'effectue avec l'appui des provinces. Elle n'exige pas l'unanimité, mais un nombre substantiel. Un nombre substantiel, ça veut dire quoi? Bien, peut-être pas 50 % mais au moins peut-être, je sais pas, 60, 65, 70 % tu sais, aller un peu plus. Alors, en novembre 81, le gouvernement du Canada obtient l'accord de 9 provinces sur 10, à l'exception du Québec, qui refuse le rapatriement et qui juge que la nouvelle Constitution affaiblit ses pouvoirs par rapport à la Constitution de 1867. Et malgré ce refus, la Constitution est rapatriée puis signée en avril 1982. Évidemment, le Québec l'a en travers de la gorge. Ça reste, comme on dit, expression populaire, tu sais, on ne l'a pas digéré, celle-là. Alors, arrive en 1984 le Parti conservateur de Brian Mulroney, qui lui promet, la phrase célèbre, là, de rapatrier le Québec dans la Constitution avec honneur et dignité. Ah, évidemment, c'est un beau programme et on se met à faire des... évidemment, avec cinq conditions, en répondant aux cinq conditions minimales posées par le Québec, reconnaissance de son statut comme société distincte et posée par le Québec, notamment la reconnaissance d'un statut comme société distincte, c'est ça, et l'élargissement de plusieurs pouvoirs. Mais... Par contre, Mulroney n'a pas réussi à obtenir l'appui de toutes les provinces canadiennes. Et il y a eu un accord, mais malheureusement, le Manitoba, Terre-Neuve et le Nouveau-Brunswick ont refusé d'appuyer l'accord. Parce que la grosse erreur, c'était on a signé l'accord, puis on a dit, bien, on vous donne 3 ans aux législatures provinciales pour le voter puis l'accepter. Évidemment, en 3 ans, il y a des changements de gouvernement. Il y a du grenouillage qui s'est fait par les libéraux fédéraux qui n'étaient pas contents.
Trois ans, c'est long en politique.
C'était très long en politique. Hey, t'sais, fait que, alors, c'est ça. Ça a été refusé. Ils ont refait... OK, je continuerai tout à l'heure avec l'accord de Charlottetown.
Oui, dans 10 secondes. Ben, on vient après la pause avec Serge Isabelle qui est là aussi pour parler du référendum sur la souveraineté qui a 30 ans cette année.
Vous pouvez...
Et Serge, vous poursuivez avec votre sujet du jour, le référendum qui a 30 ans cette année, le référendum, bien sûr, de 1995 sur la souveraineté.
Exactement, oui. Alors, j'ai terminé tout à l'heure avec l'accord du lac Meech. Alors, l'accord a été rejeté par des provinces. On n'a pas réussi à obtenir les votes aux assemblées législatives. Alors, Mulroney et Bourassa se remettent à négocier et là, ils arrivent à un accord à Charlottetown. Et ils disent, bon, ben, coudonc, on va à ce moment-là.
Ils disent ça, ben, coudonc.
Alors, tu sais, bon, on va tenir un référendum pour le soumettre à la population canadienne. Et on le soumet, puis là, l'accord. Mais évidemment, il y avait eu beaucoup de pertes pour le Québec. C'était pas la même chose que Meech. Alors, c'était un accommodement. On avait mis de l'eau dans son vin, puis bon. Et là, le référendum s'est rejeté par 54,3 % des voix au Canada et 56 au Québec. Alors là, ça a été fini. On a enterré cette histoire-là. Et malheureusement, ben là, les élections fédérales s'en venaient. Et là, c'est le Parti libéral de Jean Chrétien qui est porté au pouvoir. Et en 94, au Québec, c'est le Parti québécois, dirigé par Jacques Parizeau, qui arrive au pouvoir. Et Parizeau, lui, a dit, « Moi, si je suis élu, je fais un référendum immédiatement. J'attends pas 4 ans. Parce qu'on fait le référendum, on fait la souveraineté, puis on gère durant 3 ans. On place ça, là, on organise ça. Parce que si on le fait en fin de mandat, ben il faut aller en élection, puis là, il y a bien des choses qui peuvent changer. » Alors, pardon, Parizeau, au début, voulait faire le référendum au printemps 95. Alors, il avait été là en 94, alors printemps 95, mais là, dans son entourage au Conseil des ministres, ils ont dit, ben, un peu tôt, on peut-tu attendre un petit peu, une couple de mois? Alors, il décide de repousser ça à l'automne, en novembre 95, et ce qui est accepté. Et là, il y a une coalition qui se fait avec... on essaie d'aller chercher différents appuis auprès d'autres partis. Évidemment, le Parti libéral, ben, il n'y a pas question, mais le parti de Mario Dumont, à ce moment-là,
la DQ
accepte de se joindre à cette coalition-là. Et évidemment, il y a Lucien Bouchard aussi qui est dans ça avec le Bloc québécois à Ottawa. Alors, on a une entente et cette entente-là propose un projet commun. Dans un premier temps, cette entente donne à l'Assemblée nationale, d'une part, la capacité de proclamer la souveraineté du Québec après une victoire du oui, et la charge, d'autre part, d'offrir au Canada une proposition de traité sur un nouveau partenariat économique et politique qui vise notamment à consolider l'espace économique actuel de 1995. Alors, ce partenariat-là, c'est le scénario le plus souhaitable pour un divorce rapide. Puis on évoque à ce moment-là comme celui vécu par la Tchécoslovaquie en 92.
Un divorce à l'amiable, c'est ce qu'on souhaite.
En 92, c'est séparé en deux. Là, vous avez la République tchèque et la Slovaquie. Avant, c'est la Tchécoslovaquie, ils sont séparés en deux. Alors, à la veille du déclenchement de la campagne référendaire, le gouvernement Parizeau cherche à se mettre à l'abri du bouleversement pouvant ébranler les marchés financiers, advenant la victoire du oui. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup rassuré à ce moment-là, parce que Parizeau était un financier, et Jean Campeau, son ministre des Finances, était également un banquier. Alors, le ministre Campeau met en branle un plan d'action de financement mettant en contribution Hydro-Québec et la Caisse de dépôt et placement. Ce plan permet de dégager dans un premier temps plus de 17 milliards de liquidités. À ce montant s'ajoutent ensuite 2,5 milliards de la Banque Laurentienne, 12,5 milliards de la Banque nationale et 5 milliards du Mouvement Desjardins. Donc, avec un montant comme ça, tu peux laisser, tu dis, bien là, on laisse tomber la poussière.
On a un bon coussin.
Oui, c'est ça, on a un bon coussin, puis c'est sûr qu'il faut que quelque chose se passe, mais on est moins à l'abri du chantage économique, si vous voulez. Alors, la question posée le 8 septembre pour le vote en novembre, acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signé le 12 juin 1995? On est allé chercher également des appuis.
Est-ce qu'on dit qui a rédigé la question?
C'est le M. Parizeau, M. Bouchard. Oui, ils ont négocié Parizeau et Bouchard parce qu'ils ne s'entendaient pas à m'en donner les deux. Parce que lui, Bouchard tenait vraiment une association, offrait un partenariat économique. Puis Parizeau était plus...
Indépendantiste,
oui, plus strict. Là. Mm-hmm. Alors, ils sont au niveau des appuis, évidemment, ils sont allés chercher la Centrale d'enseignement du Québec avec Laurent Pagé, le président de la Confédération des syndicats nationaux, CSN de Gérald Larose, président de la Fédération des travailleurs du Québec, Clément Godbout, et la présidente du MNQ, Louise Lorrain. Et évidemment, c'est une campagne, ça fait appel aux émotions de campagne électorale, même une campagne normale, tu sais. Même là, actuellement, municipale, tu sais, il y a un peu d'émotion qui se passe. Alors,
un peu beaucoup,
oui. Oui. Alors, le oui, son slogan, c'était « Oui, ça devient possible ». Et le non, c'était le mot « séparation », mais coupé. Alors, « sépa, non, ration ». Ils l'ont coupé en deux. Alors, ils avaient joué un peu. Le camp du non, ben, il y avait Daniel Johnson, chef du Parti libéral du Québec, et chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, et Jean Charest, chef du Parti conservateur, puis Jean Chrétien, premier ministre du Canada. Le oui, ben, c'était Parizeau, Bouchard, Dumont et toutes les associations. La campagne référendaire, maintenant, des petites choses qui ont été un peu... ont mal passé. Le premier, c'est Claude Garcia, président des opérations canadiennes et de Standard Life et président du conseil d'administration de l'UQAM, qui a dit lors d'une réunion fédéraliste, il dit « Il ne faut pas gagner le 30 octobre, mais il faut écraser. » Alors ça, là, ça a choqué beaucoup, beaucoup de monde. Même les fédéralistes ont été extrêmement mal à l'aise avec cette déclaration-là. Et vous avez aussi Laurent Beaudoin, président de la compagnie Bombardier, qui, lui, évidemment, a joué beaucoup du côté économique, ce qu'on fait toujours dans des questions comme ça, même les élections normales, là. Alors, au début de la campagne, ben, le camp du oui connaît des difficultés. L'option souverainiste est à 45, le non à 55. Et évidemment, c'est l'arrivée de Lucien Bouchard qu'on a mandaté. Ça, c'est Jacques Parizeau a accepté ça. Et que Lucien Bouchard devienne négociateur en chef. Bon, c'est un titre un peu vide, si on veut, mais ça a eu du punch, comme on dit.
Oh oui.
Et Bouchard
il releva... Il volait
ouais. Et Lucien Bouchard releva son malade d'une terrible maladie. Il s'est fait amputer de la jambe.
C'est vrai.
Et c'était un... Chrétien avait dit...
La bactérie mangeuse de chair ouais. Qui l'avait attaqué.
Jean Chrétien avait dit, si ça continue, les gens vont demander de les bénir en parlant de Bouchard. Mais ça, c'est les déclarations de Chrétien, tu sais.
Ouais.
J'avais, c'était très imagé. Alors, la campagne, ouais, c'est ça. Vous avez eu également aussi l'espèce de grand Lovin à la place du Canada. Aussi, ouais. Qui a dérangé ça beaucoup de gens, autant des gens
les
du oui
parties,
que du non.
Oui,
ouais, ça a dérangé
les deux
beaucoup
camps,
de gens.
Ouais.
Ouais. Alors, voilà.
Bien, il y a tellement de choses à dire. Mm-hmm. Je sais qu'il va y avoir une émission spéciale oui. sur les ondes de Radio-Canada. Mm-hmm. Le référendum qui s'est déroulé le 30 octobre 1995. Mm-hmm. Donc, c'est demain, là, le 30e anniversaire. Mm-hmm. Et je rappelle le titre, Confession post-référendaire du livre dont vous nous avez parlé avec beaucoup d'enthousiasme, Serge, les acteurs politiques de 1995 et le scénario d'un oui, des entrevues avec Jean Chrétien, Paul Martin, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Mario Dumont, Jean Charest, Sheila Copps, Lucienne Robillard, Preston Manning et j'en passe.
Ils sont allés voir tout le monde.
Oui, c'est vraiment complet comme ouvrage. Là,
en 2014, on était loin de 95. La poussière était retombée. Mm-hmm. Puis là, c'était plus rationnel comme... bon, il serait passé ça. Oui, c'est plate, j'aurais perdu. Mais bon...
il y avait quand même du recul là,
garder
son esprit analytique, avoir un esprit plus analytique.
Alors, si vous mettez la main sur le livre, là, lisez-le.
Oui, aux Éditions de l'Homme. Mm-hmm. Merci, cher Serge. Et merci aussi, Isabelle.
Merci, à la semaine prochaine.
On salue Daniel Lachance qui nous écoute peut-être, qui sera avec nous, je le confirme, le 19 novembre pour une chronique sur Gino Vanelli.